Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir. Dans quel état est le droit? C'est la question qu'on va se poser dans Matière à penser. La tristesse de ce temps ne tient pas seulement à ce climat de violence civile nouveau pour notre génération de citoyens. Il tient aussi à l'évidente fragilité des grands principes dans notre conscience même. Il tient à la fréquence avec laquelle il nous faut désormais rappeler ces évidences qui renferment en elles-mêmes une part de notre honneur collectif. Ces lignes, je les emprunte à la plaidoirie que le 31 janvier 2017, devant le Conseil constitutionnel, l'avocat François Sureau a fait, et pas en vain, résonner à nos oreilles, à tous. Bonsoir François Sureau.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous êtes écrivain et avocat, et pas n'importe quel avocat, vous êtes avocat au Conseil.
Oui, c'est une singularité qui est d'ailleurs, je crois que c'est la dernière charge d'ancien régime qui existe en France, puisque
Louis XIV,
voilà, les avocats au Conseil sont les avocats qui ont le monopole de la représentation de leurs clients devant les cours suprêmes de l'ordre administratif et judiciaire, Conseil d'État et Cour de cassation. Ça veut dire qu'on plaide aussi assez souvent devant le Conseil constitutionnel, pour des raisons de procédure, parce qu'il n'y a pas de monopole devant le Conseil constitutionnel. Et mon associé Patrice Spinozzi et moi, nous sommes quand même assez largement spécialisés sur les libertés publiques, les droits des détenus, ce qu'on appelle les droits de l'homme, de manière générale. Et pour ce faire, nous travaillons dans une charge, qui est la charge qui était naguère celle de Chauveau-Lagarde, le défenseur de la reine Marie-Antoinette, dont le portrait trône dans notre entrée.
C'est ça. Et le 31 janvier, donc, je l'ai dit, le 28 mars et le 30 mai 2017, vous avez eu à plaider devant le Conseil constitutionnel, devant trois dispositions sur des lois relatives au terrorisme et à l'état d'urgence, et vous avez obtenu gain de cause.
Oui, c'est un peu une fausse fenêtre, c'est-à-dire que je pense que les procédures devant le Conseil constitutionnel sont très largement écrites. J'irai pas jusqu'à dire que la décision des juges du Conseil constitutionnel est écrite avant qu'on commence à plaider, mais enfin, il est sûr que les gens y ont sérieusement travaillé. C'est plutôt l'occasion de resituer à cette querelle juridique une dimension presque philosophique, une dimension assez fondamentale. Parce que parmi les choses qui me frappent dans ce qui s'est passé au cours des 10 ou 20 dernières années, et je trouve que c'est spécifiquement français d'ailleurs, c'est la technicisation ou l'administrativisation du droit, c'est-à-dire le fait de le voir comme au fond un ensemble de règles, de normes avec lesquelles on peut ruser. Le Conseil constitue annule une disposition législative, aussitôt 4 technocrates, 15 députés se rassemblent entre eux pour voir comment contourner la décision du Conseil constitutionnel et non pas pour méditer ensemble sur la règle de principe que le Conseil constitutionnel a entendu rappeler. Ça d'abord c'est très français parce qu'on est un pays de droit très positif, dans lequel la loi, expression de la volonté générale, a longtemps emporté tout le reste, sans considération des principes de la déclaration. C'est vraiment une de nos caractéristiques, pratiquement jusqu'en 71. Il n'était pas possible de faire annuler une loi comme contraire à la déclaration des droits. Donc c'est un peu notre tradition nationale. Et puis s'y ajoute aussi quelque chose de très français, qui est l'anonymat des juges. Le fait que les juges se retranchent derrière la norme. Quand vous regardez les décisions de l'équivalent du Conseil constitutionnel aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis, vous avez un mécanisme où on sait ce que les juges ont voté, où ils l'expriment, où ils le commentent, et ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision finale rendent des opinions dissidentes. Et la plupart de ces décisions sont fondées véritablement sur des principes. Ce qui fait qu'il est moins nécessaire qu'en France, d'une certaine manière, de rappeler le soubassement principiel qui réside derrière la prise de décision juridique, alors que chez nous, je trouve que c'est assez nécessaire. Donc au fond, je ne dirais pas que j'ai obtenu ces annulations, peut-être étaient-elles déjà écrites, mais en tout cas, je suis heureux d'avoir pu contribuer à les éclairer en essayant de leur donner leur portée véritable.
Et vous avez rappelé des évidences qui sont des évidences de philosophie politique et voilà pourquoi ces trois plaidoiries se trouvent aujourd'hui rassemblées dans un livre Pour la liberté, répondre au terrorisme sans perdre raison qui est paru chez Talendier l'année dernière. Et je me permets de lire juste la suite du passage que j'avais lu tout à l'heure. Les gouvernements ont cédé, les parlements ont cédé, Personne, je crois, n'aurait pu, dans notre jeunesse nourrie des grands exemples et des drames du passé, imaginer qu'il céderait aussi facilement par lâcheté, par inconséquence ou par calcul. Il est sûr que cela nous rendra moins sévères à l'égard de nos aînés, mais c'est une faible consolation. Et là, on est dans un constat qui est amer sur les générations et sur l'histoire.
Oui, là, vous voyez, c'est vraiment un constat personnel. Et pendant longtemps, je me suis dit, tout ça ne concerne que moi, que ma génération, que c'est inutile de le faire partager, restons au niveau des principes. En fait, non, j'ai décidé de faire partager cette expérience existentielle. Je suis né en 57, j'ai été élevé comme tout le monde dans le souvenir de la guerre, des prises de décision des uns et des autres. Quand je suis rentré au Conseil d'État, il y avait siégé au Conseil d'État des gens qui avaient été de tous les côtés. J'ai siégé au Conseil d'État, quand j'y suis rentré, dans les années 80, à la fin des années 70, à côté de quelqu'un qui avait été le dernier directeur de cabinet du maréchal, et à côté de gens qui n'avaient pas pu se présenter pour des motifs de loi anti-juive au concours du Conseil d'État, et qui avait été réintégré après la guerre. Et tous ces gens vivaient ensemble, et nous étions quand même surplombés par une dimension de principe extrêmement forte, et j'ai cru qu'elle nous était absolument aussi naturelle que l'air que nous respirions. Et l'expérience que j'ai faite, comme ceux de ma génération, dans les 20 dernières années, c'est la disparition à peu près totale de cette ère. Je ne veux pas dire par là que nous soyons devenus une dictature, ni qu'on ait basculé dans le totalitarisme, ou ce qu'on appelle maintenant la démocratie illibérale. Simplement, le caractère absolument central du principe de liberté, avec lequel il n'était pas question de ruser, est devenu quelque chose avec lequel on peut désormais ruser et dans lequel on peut tripoter pour bricoler des options sécuritaires. Et ce qui m'a frappé, c'est la disparition à peu près totale de tous les contrefeux successifs. Oui. La gauche, qui globalement, quand j'étais jeune, la gauche, il y avait la gauche stalinienne, quoi, pour le dire vite, et les copains de la gauche stalinienne. Je parle pas de l'extrême gauche, des anards, des trotskistes, ou que sais-je encore, qui était encore un truc un peu particulier, mais je parle dans la gauche institutionnelle. Il y avait la gauche stalinienne et ses potes. Et puis, il y avait d'une certaine manière la gauche libérale, quoi. Bredin, Badinter, Mitterrand, enfin, toute espèce de choses, là. Ça a complètement disparu. Cette gauche-là a totalement disparu. Cette gauche-là s'est convertie à la droite pendant que la droite se convertissait à l'extrême droite. Le déplacement a été absolument gigantesque. Et les gens qui n'avaient pas spécialement d'options politiques très tranchées comme moi, par exemple, ont assisté avec une certaine surprise à la capacité de toutes les institutions publiques successivement de s'asseoir sur les principes fondateurs. Le fait que quand on a été mis en prison et qu'on a purgé sa peine, on est libre de sortir, chose à laquelle on a mis fin avec la rétention de sûreté. Le fait que le droit des circonstances exceptionnelles, qui peut exister, ne doit pas durer au-delà de 15 jours ou de 3 semaines, et en tout cas n'est pas susceptible de durer 6 mois ou 1 an, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, motif pris d'un risque terroriste, s'asseoir complètement sur la déclaration des droits et les principes fondamentaux pendant une durée de temps excessive, ça a complètement disparu. J'ai vu apparaître des choses aussi effarantes que la déchéance de nationalité, le regroupement des fichiers, c'est-à-dire des gens qui sont détenus sur de simples le motif de soupçon de police administrative à l'intérieur de camps de regroupement façon Saint-Maurice-l'Ardoise. Et le plus étonnant pour moi n'était pas que ces idées simplement aient été émises, mais que ces idées ne rencontrent d'autres oppositions, ni le président de la Commission des lois, ni l'Assemblée nationale, ni rien, ni le garde des Sceaux à l'intérieur du gouvernement, jusqu'à l'ultime rempart qu'a été le Conseil constitutionnel au moment de l'état d'urgence.
Et c'est ce que vous dites de manière assez... Je n'arrive même pas à dire le mot, enfin, à la fois implacable et presque drôle dans ce texte qui s'appelle « Sans la liberté » qui vient de paraître, c'est que, au fond, nous avons été à ce moment-là, François Sureau, sauvés par ce que vous appelez « quelques vieillards du Conseil constitutionnel ».
Oui, ce sont des rescapés de la vie publique. Si vous voulez, ce qui me frappe, c'est que les juristes fanatiques dont je suis passent leur temps à regretter que le Conseil constitutionnel ne soit pas composé comme une véritable Cour suprême avec des magistrats connaissant le droit, etc., etc. Puis ben finalement, c'est une espèce de paradoxe que vous relevez, Patrick Boucheron. Ce paradoxe, c'est que à la fin, ces gens qui n'étaient pas des grands magistrats, qui n'étaient pas des personnalités juridiques, en tout cas de premier plan, qui pour certains avaient eu de grandes carrières politiques, mais qui n'étaient pas des personnalités juridiques de premier plan, eh bien c'est à eux qu'il est revenu de rappeler des évidences assez simples. Que par exemple, on ne pouvait pas admettre en France l'idée d'un délit cognitif, que l'idée d'aller consulter un site, fut-il terroriste, ne pouvait pas valoir commencement de poursuite. L'idée que quelqu'un
et
qui...
Et ça, ça avait été pourtant...
Et ça avait été pourtant décidé. Ça avait été décidé, ça avait été voté. Que quelqu'un qui, d'une part, a chez lui 3 bouteilles d'eau rassemblées avec du scotch tape et qui, en même temps, consulte le site djihad.com, ne peut pas être réputé à raison de la combinaison de ces deux éléments comme un type qui se prépare à faire péter le Bataclan. Mais qu'il y faut un peu plus, parce que le caractère civilisé de notre droit, c'est que il faut au minimum un peu de commencement d'exécution avant que l'État puisse réputer quelqu'un criminel en puissance. Et de même, il a fallu que ça soit ces dignes vieillards, si je puis dire, enfin dont les plus jeunes ont mon âge, hein, je vous rassure, mais que ces dignes vieillards rappellent cette évidence que, il n'est pas absolument normal dans la France des années 2000 d'appliquer exactement la loi de la Restauration et d'expliquer que, comme le décrit assez drôlement Stendhal d'ailleurs dans Lucien Leven, un préfet, motif pris du fait qu'il s'est fâché avec des gens qui sont plutôt orléanistes dans un sens ou légitimistes dans l'autre, peut les assigner à résidence dans un coin du département. Voilà. C'est chose qui quand même relève de l'évidence malgré tout. Il a fallu attendre d'en arriver là pour les voir à la fin censurés.
Vous savez ce qui se passe en ce moment, François Sureau, votre tract. Vous vous attendiez d'ailleurs à écrire un tract un jour.
Non, je ne m'attendais pas à écrire un tract. Sauf que moi j'aime bien.
Je dis tract parce que c'est oui. Le nom, pardon, excusez-moi, de la collection chez Gallimard. Alors
je ne m'y attendais pas, mais ça m'a beaucoup flatté quand on m'a fait cette proposition, parce que en fait, cette collection est une collection qui a été créée par Gaston Gallimard entre les deux guerres.
Oui.
Si je me souviens bien, et dans lequel ont été publiés 2 textes que j'aime beaucoup. L'un est Le retour du RSS de Gide, et l'autre est Le refus d'obéissance de Giono. Et en fait, oui, alors évidemment, quand on m'a proposé d'écrire un tract en me sortant ces deux personnalités illustres, comme... j'étais surtout en compagnie flatteuse, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc ça m'a... Puis alors, le genre m'a plu aussi, le côté papier, le côté pas livre, quoi, papier imprimé. Comme
sans
ça,
la mais... liberté, mais il se passe quelque chose autour de ce livre, enfin de ce tract, vous le savez bien, François Sureau, c'est que on a le sentiment un peu étrange, compte tenu justement de ce transport, de ce double transport du centre politique, effectivement, vers les extrêmes, que vous qui n'êtes pas de gauche, au fond, défendez mieux que la gauche ses principes.
Alors, Patrick Boucheron, vous voyez, je voudrais quand même... Non mais c'est d'accord, hein, je vais pas... j'aime la formule « vous qui n'êtes pas de gauche ».
Vous savez ce qu'on dit, effectivement, vous êtes ami de François Fillon, vous avez...
je vais en dire un mot. J'ai défendu François Fillon au moment de l'élection de l'UMP, mais comme avocat, mon cabinet, mon associé et moi-même... défendons de la même manière Nicolas Sarkozy dans un certain nombre de procédures devant la Cour de cassation, alors que je me suis pendant son quinquennat continuellement exprimé contre sa politique de manière générale et la politique de l'asile en particulier. Ces positions ne suffisent pas à faire de moi un homme de gauche, naturellement. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que j'ai vu au fond. Je voudrais pas dire que je suis ni de gauche ni de droite. C'est vrai que comme tout le monde, quand je suis avec des gens de gauche, assez souvent je me sens à droite, et quand je suis avec des gens de droite, je me sens assez souvent gauche. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce livre sur la liberté, je l'ai écrit parce que j'ai vu quelque chose disparaître,
oui.
comme disparaître. Et c'est quelque chose qui, au fond, unissait malgré tout ce que je trouvais estimable dans la droite qui n'était pas autoritaire et ce que je trouvais estimable dans la gauche qui n'était pas totalitaire. Or, comme beaucoup de gens, j'ai vécu mon éducation, politique en tout cas, entre des gens de gauche qui trouvaient massivement des excuses au totalitarisme du XXe siècle et des gens de droite qui trouvaient massivement des excuses aux régimes autoritaires qui permettaient de lutter contre les totalitarismes de type communiste à l'époque. Et donc je faisais mon éducation entre les deux. Il n'en reste pas moins qu'au milieu, il y avait un noyau de gens qui allaient, au fond... presque mythiquement, quoi, d'Orwell à Simon Leys, quoi, qui trouvait que tout ça était un absolument déraisonnable de part et d'autre et que nous devions bien arriver à nous entendre sur des choses absolument élémentaires, que les citoyens, selon lesquelles les citoyens étaient les propriétaires de l'État et non pas ses sujets, selon lequel la garantie des droits devait être assurée en toutes circonstances, selon lequel c'était une autorité judiciaire indépendante qui devait prononcer des peines privatives de liberté, et que, en fait, rien, mais rien ne pouvait être avancé qui doive aboutir à contrebattre ces vérités-là. Mmh. Ce petit noyau qui unissait non pas des gens de droite et des gens de gauche, enfin si je puis dire, mais ce qu'il y a de bien à droite et ce qu'il y a de bien à gauche dans l'amour de la liberté, c'est ce noyau-là qui a disparu. Et c'est ça qui a fini par m'inquiéter.
Oui, et c'est ce qu'on lit dans Sans la liberté, c'est que il faut un tout petit nombre de gens, au fond, pour corrompre un
temps. Que c'était...
Et ça, alors... c'est quelque chose de très puissant dans votre constat. Vous dites au fond que voilà, il y a votre génération a pu échouer, mais au moins en a-t-elle ressenti quelques remords, alors que celle qui suit verse.
Alors celle qui ça a été mon grand élément de surprise, c'est-à-dire que celle qui suit ne me paraît éprouver aucune hésitation. On a l'impression qu'ils sont rentrés entièrement dans le monde technique, c'est-à-dire dans celui que Evelyn Waugh a décrit à un moment décrivant une figure du retour à Brightside et qu'a très très bien commenté Simon Leys. On a l'impression qu'ils s'ébrouent dans le monde de la technique et de l'efficacité sans considération pour l'émancipation du citoyen qui reste quand même malgré tout notre projet depuis le XVIIIe siècle, sans aucune considération pour ça. Alors même que apparemment, et je parle plutôt de la majorité actuelle, ce projet émancipateur, en tout cas dans leur campagne électorale, me paraissait être en quelque manière le leur. Bon. Et ça n'est pas du tout ce qui s'est produit. Le naturel technique est revenu absolument au galop. C'est très surprenant.
Vous parlez bien de corruption et de corruption des élites. Je vous le dis, François Sureau, ma surprise tient à la manière dont j'ai vu depuis 10 ou 20 ans, les meilleurs caractères se corrompre comme dans un bain d'acide, pour reprendre l'expression de Bloom à Bordeaux.
La vraie question, en fait, c'est... D'abord, il y a ce côté, dans un pays très centralisé, jacobin, technocratique, élitaire, il est de fait qu'on a l'impression très souvent que la qualité de l'esprit public dépend de la tenue morale des 3000 personnes qui sont placées aux manettes de l'État, et ça rappelle tout à fait la phrase de Burke sur... il suffit d'un petit nombre, a few good men, quoi. Bon, ça rappelle absolument ça. En même temps, ce que j'ai essayé de décrire dans le livre, je me suis interrogé là-dessus. C'est-à-dire quand même, mais ça c'est une question que, comme historien, vous connaissez mieux que personne. Il y a une question me fascine absolument, y compris en matière d'histoire. C'est comme en matière d'amour, ça. Comment cesse-t-on d'aimer ce qu'on aime? Voilà, mm-hmm. C'est une question personnelle. Comment cesse-t-on d'aimer ce qu'on aime, qui vaut dans les relations interpersonnelles et qui vaut également en matière historique. Et je trouve ça absolument fascinant. C'est-à-dire que c'est une question évidemment qui ne comporte pas de réponse, même pas de réponse strictement matérialiste. C'est-à-dire, comment se fait-on que quelque chose qui nous paraissait jusque-là absolument nécessaire et, comme on dit maintenant, incontournable, cesse d'être nécessaire et incontournable? Quel est ce mouvement étrange par lequel ça vient? Quel est ce mouvement étrange par lequel ça vient à la fin du XIVe siècle, sous la Réforme, dans les années 1770, au moment de la Renaissance,
Ou même avant, les communes qui d'un coup délaissent de leur liberté publique.
Exactement. Comment
c'est ça que vous décrivez aussi.
Comment est-ce que ça vient? C'est-à-dire que d'où vient profondément ce mouvement qui fait que lorsqu'un gouvernement répudie l'idéal des libertés publiques, eh bien, on a l'impression qu'il recueille l'assentiment du plus grand nombre. Car, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on a l'impression que on ne peut pas s'opposer à ce mouvement parce qu'un gouvernement qui va naturellement sur cette pente, ce qui est la pente de tout gouvernement par nature...
Oui, ça vous le rappelez.
Ce qui est de l'évidence, bon, ils sont comme ça. De droite, de gauche, ils sont comme ça. Ils tendent à l'efficacité et pas à autre chose. Et puis à la perpétuation de leur propre pouvoir, mais rencontrent l'assentiment du plus grand nombre et en particulier de la collectivité de ces citoyens qui avaient rêvé un temps au moins d'être des citoyens libres. Comment ça se fait? Et cette question est assez mystérieuse quand j'y pense. Je me dis que il y a peut-être deux ou trois raisons principales. C'est d'abord la première raison, c'est que nous avons cessé de croire à la société politique profondément. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que la liberté d'autrui nous soit aussi nécessaire que la nôtre propre. Nous croyons à la société des droits, bien sûr, des droits pour chacun, mais nous avons cessé de croire au projet d'une société politique où chacun se soucierait de la liberté et de la dignité des autres.
Ça, c'est et où la liberté voilà. de l'autre nous est aussi essentielle.
Essentielle que la sienne propre. J'ai l'impression qu'on a, on a cessé d'y croire. J'ai l'impression aussi, c'est un...
Ça, c'est ce que vous appelez, pardon, les libertés
liberté publique, voilà, liberté publique, oui, dans la tradition française, c'est-à-dire pas la liberté réduite à l'exercice par chacun de son droit individuel, mais la liberté insérée dans un système de la société politique où, au fond, les libertés de tous sont dues ou sont garanties par un exercice soutenu de la vigilance de chacun.
Et ça, c'est la fragmentation du droit qui nous fait troquer exactement. Les libertés publiques pour des droits individuels.
Contre des droits individuels ou communautaires ou mémoriels ou etc. Et je trouve ça assez... Alors, pourquoi est-ce que ça se passe? Je pense aussi que ça se passe pour une deuxième raison, qui est tout aussi préoccupante que la première. C'est qu'en fait, on a été... j'ai l'impression que... Ce que je veux dire va vous paraître à la fois un peu neuneux, peut-être un peu niais, mais j'essaie d'y réfléchir de manière... pour me donner des réponses à un phénomène que je trouve assez angoissant, au fond, enfin me donner à moi-même des réponses à un phénomène que je trouve angoissant. J'ai l'impression que... l'idée du salut nous a désertés. C'est une idée qui a ordonné notre pensée politique depuis pratiquement le haut Moyen-Âge. Alors elle s'est transformée, elle s'est sécularisée, elle s'est... Voilà, mais je relisais l'autre jour la fin des mots. Enfin, je veux dire, la fin des mots est un texte absolument magnifique.
De Sartre.
Oui, de Sartre. Rien dans les mains, rien dans les poches, j'ai essayé de me sauver tout entier par le travail et par la foi. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, il y a comme un regret amer dans cette phrase. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Et on a l'impression que cette idée du salut, une fois abandonnée, l'idée du salut religieux qui s'est transformée en l'idée d'un salut politique collectif, nous a à peu près désertés à cause des deux guerres mondiales, de la colonisation, de la décolonisation, de la Shoah, des totalitarismes. Elle nous a désertés. Notre pessimisme est devenu total. Et donc, il ne peut plus y avoir de dynamique de la liberté. Puis le troisième élément qui me paraît... assez préoccupant aussi, c'est que je pense que, et on le voit bien à chaque fois qu'on parle de fraude fiscale, de pédocriminalité, de harcèlement, de terrorisme, nous ne parvenons pas à traiter le problème, et en particulier c'est le cas avec le problème du système pénitentiaire et des détenus, nous ne parvenons pas à traiter la question du mal individuel et du mal social, de manière humaine, avec le rêve que les réformateurs des prisons, par exemple, ont eu au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, ce que Badinter exprime très bien dans La prison républicaine. Nous avons perdu cet optimisme-là. Le mal nous est devenu quelque chose d'insupportable, de non traitable, que nous devons retrancher par l'enfermement, par la condamnation absolue, par la sortie des procédures du droit commun, par la déchéance de nationalité, par le camp de concentration du fichier S. Le mal doit être absolument rejeté vers l'extérieur. Il n'est pas le nôtre.
Et ça, c'est ce que vous écrivez.
Ça me paraît plus inquiétant que le reste, parce que ça veut dire que je vois naître derrière l'option sécuritaire le rêve d'une société pure. Et le rêve d'une société pure me paraît extrêmement dangereux.
Et vous dites, François Sureau, des droits pour nous, des supplices pour les autres.
Oui, c'est ce qu'on voit. On voit très bien que chaque collectivité particulière, en réalité, alors, soit c'est le cas le pire, est prête à réclamer des droits pour elle et des supplices pour les autres, soit au fond, est prête à une espèce de société de la censure, où on accepterait une part de la censure des opinions, pour peu que la censure des opinions adverses soit également mise en œuvre par l'État. C'est-à-dire une société de la censure molle, à peu près orwellienne, que je vois doucement se mettre en place sous nos yeux.
Et ce qui nous met face à l'État en situation de demandeur, de créance.
Alors ça, il faut dire aussi que... Enfin, bon, c'est vous l'historien, donc... Moi, c'est une chose qui me frappe quand je regarde l'évolution de l'État et des libertés, c'est-à-dire que globalement, ça se passe aussi parce que nous faisons beaucoup d'illusions sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous nous présentons nous-mêmes comme une société de la liberté. Nous sommes une société de l'État, en réalité. Mmh. C'est d'ailleurs l'un des points sur lequel Tocqueville, qui, à mes yeux, a tort quand il s'aventure au-delà de la sociologie, ça paraît assez nunuche de dire ça, mais voilà, sur lequel Tocqueville a raison. C'est-à-dire que nous sommes, depuis les années 1180, une société de l'État. Quand on regarde les moments où les libertés individuelles ont été assurées en France, pour un pays qui se dit le pays de la liberté, c'est quand même extrêmement frappant. On a eu peut-être un court moment de liberté entre l'abolition de la censure ou de la torture, l'abolition pratique de la censure et légale de la torture à la fin de l'Ancien Régime jusqu'en 1793, à peu près encore, 1792. Et puis à partir de là, tout ça déconne complètement, pratiquement de manière continue, de droite comme de gauche, avec l'idée d'un État serviteur de l'ordre politique et moral et des intérêts matériels de la bourgeoisie d'argent, parce que c'est ça le véritable sujet en termes économiques, que tout ceci déconne jusqu'à un court moment qui est globalement entre 1881 et 1930, c'est-à-dire la Troisième République, avec les grandes lois libérales. Et encore, il faut penser ça en acceptant deux choses. La persécution anticatholique, qui serait aujourd'hui manifestement évidemment condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on peut parfaitement séparer l'Église de l'État sans expulser 40 000 religieux. Et d'autre part, le fait que toutes les populations qui étaient soumises à l'État français, vous savez ça mieux que personne, sont en réalité des populations citoyennes, comme les populations françaises, si je puis dire. Et puis la masse des populations coloniales, qui elles étaient soumises au législateur colonial, qui était un législateur d'exception, qui combinait allègrement le travail forcé et la déportation à temps. Et ça fait beaucoup tout de même. Et si l'on ajoute à ça qu'une très large partie des écrivains de cette époque ont trouvé, pour des raisons diverses d'ailleurs, toutes les excuses au totalitarisme de droite et de gauche, à quelques rares exceptions près, Mauriac, Camus, Aron ou Pollan, ou les surréalistes qui me sont particulièrement chers, au moins la fraction d'entre eux qui n'étaient pas convertis au stalinisme, ça fait quand même un portrait national qui montre que il faut suivre la pente des libertés en la remontant en France, voilà. Et ça, elle ne nous est pas entièrement naturelle.
Non, mes amis, non, je ne veux rien être, semés ailleurs, place, titres et croix. Non, pour les cours, Dieu ne m'a pas fait naître, oiseau craintif, je fuis la glu des rois. Que me faut-il, maîtresse à fine taille, petit repas et joyeux entretien, de mon berceau près de bénir la paille, en me créant. Dieu m'a dit ne sois rien, de mon berceau près de bénir la paille, en me créant, Dieu m'a dit ne sois rien. Un sort brillant serait chose importune pour moi rimeur qui vit de temps perdu. M'est-il tombé des miettes de fortune, tout bas je dis, ce pain ne m'est pas dû. Quel artisan, pauvre hélas, quoi qu'il fasse, n'a plus que moi droit à ce peu de bien. Sans trop rougir, fouillons dans ma besace, en me créant, Dieu m'a dit ne sois rien. Sans trop rougir, fouillons dans ma besace, en me créant, Dieu m'a dit ne sois rien.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de François Sureau, Sans la liberté, c'est le nom de votre tract chez Gallimard qui vient de paraître. Qu'est-ce que vous nous faites entendre là?
Ah, c'est une chanson de Béranger. Alors moi, j'aime bien Béranger. Je suis pas fanat de ses positions politiques. J'ai jamais été extrêmement bonapartiste. Mais en revanche, j'aime beaucoup cette chanson qui est. D'abord, c'est étonnant Béranger parce que, enfin, je crois que Victor Hugo lui-même considérait que c'était pratiquement le plus grand poète de son époque. Enfin, c'est un type qui a complètement disparu.
J'aurais pas. Et qui fascinait tout le monde.
Et qui fascinait absolument tout le monde. Et c'est pas mal. C'est léger, c'est bien, etc. Et j'aime particulièrement cette chanson qui est en fait qui est la chanson d'un type qui a renoncé à devenir ministre. C'est pas du tout un autoportrait. Hein.
Non,
personne n'aurait jamais songé à me confier de telles fonctions. Mais je la trouve absolument savoureuse à cause de ça. En me créant, Dieu m'a dit ne sois rien. Je trouve ça absolument phénoménal. Ouais.
Alors justement, je disais tout à l'heure un peu sottement, François Sureau, que vous n'étiez ni de droite ni de gauche. C'est pas comme ça que ça se. C'est pas à cette hauteur là au fond que vous écrivez, puisque la littérature. Vous avez à peu près tout dans la vie.
Oui, c'est en fait la raison. J'ai eu deux raisons pour écrire ce livre. Il y a une première raison un peu politique, c'est qu'au fond, Au fond, je crois que c'est en train de disparaître aussi, c'est cette notion absolument fondamentale que nous avançons par la contradiction, voire par l'exercice violent des contradictions, et que je ne vois pas sans crainte se mettre en place le rêve d'une société entièrement pacifiée sous le contrôle des censeurs, et qui nous priverait de ce que nous sommes, parce qu'on n'est pas fait pour être des Aztèques, des Chinois, etc. D'autres réussiront mieux que nous dans cet exercice, nous on est quelque chose de tout à fait différent. Donc j'avais une espèce de sentiment un peu... péguiste, si vous voulez, en un peu moins patriotique peut-être que Peggy, mais un sentiment un peu péguiste de ce qui constituait notre être propre, c'est-à-dire de ce jeu de la contradiction qui peut aller jusqu'à la dissidence, à l'émeute ou au refus, mais qui est véritablement ce qui fait de nous des gens intéressants dans l'histoire. Par nous, je veux dire occidentaux et spécialement français.
Tout puis, en vous méfiant, pardon, avec Emmanuel Lévinas, des niaiseries de l'enracinement.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est et pour moi, cet enracinement est un enracinement presque spirituel dans l'idée de dans l'idée qu'au fond, mais cette question nous amènerait assez loin, et au fond, dans l'idée que ce monde-là, ce monde-ci que nous voyons, est d'une certaine manière le reflet d'un autre, et qu'il nous appartient de ne pas dégrader le rêve que nous pouvons avoir d'un autre monde par l'organisation abusive de notre vie immédiate sur Terre. Voilà. Ça, c'est une et au fond, ça, c'est une idée que j'ai prise dans la littérature. J'essaie d'expliquer au début de mon petit livre que, au fond, je me suis demandé moi-même pourquoi j'aimais la liberté. Parce que à la fin,
il y a des gens d'où ça vous vient
d'où. À la fin, il y a des gens à la fin des fins, il y a des gens qui aiment l'ordre. Oui. Et il y a des gens qui aiment l'ordre pour des raisons qui ne sont pas toutes méprisables. Et au fond, je crois que l'amour de la liberté m'est venu du fait que la littérature, une certaine forme de littérature, m'a donné assez vite cette impression que je n'étais pas seul avec d'autres personnes, des écrivains considérables que j'ai aimés avant moi, que je n'étais pas seul à penser que ce que nous voyons du monde dans sa difficulté et ses douleurs ne justifiait jamais de priver l'homme de sa dignité, de son inventivité, de son écart, de sa méfiance, de ses refus. Enfin bon, et en fait, j'ai découvert la liberté par le refus, par la décision de Rimbaud de cesser d'écrire, par Lawrence s'enfermant à Bovington, le récit que fait Stendhal de sa déception politique. Stendhal avait adoré la terreur à Grenoble. Noble, tout ça, détestait l'abbé Ryan qui était son précepteur, avait rêvé de la révolution, et puis à la fin, la révolution débouche sur l'Empire, il est à Moscou, tout ça lui paraît absurde, il fuit une botte dans une main et l'autre jambe nue, description absolument magnifique. Tout ça, oui, tout ça, c'est un peu mes héros, et ils ont débouché sur ce qui a été, ce qui continue d'être l'une de mes grandes passions, qui est le mouvement surréaliste.
Oui, parce qu'on pourrait dire de votre livre, Sans la liberté, qu'il s'ouvre avec Chateaubriand, mais que d'une certaine manière, il se veut d'abord fidèle à votre amour ardent pour André Breton.
Oui, exactement. André Breton n'a pas cessé de m'accompagner. Et ça, c'est curieux d'ailleurs, parce que lui-même avait un côté, ses adversaires le qualifiaient de pape. Vous voyez, c'était un apôtre de la liberté qui pouvait être lui-même assez dictatorial. Mais il y a quelque chose de puissamment libérateur. Chateaubriand, bon, vous en parliez à l'instant, Chateaubriand est absolument étonnant aussi parce que c'est exactement pas l'inverse de Stendhal, mais au fond, j'ai toujours vu, et on voit très bien ça, d'ailleurs Gracq décrit très bien ça à propos de Chateaubriand, j'ai toujours vu, si vous voulez, l'amour de la liberté comme une sorte de feu, de chaudière particulière qui ronflait en permanence chez des esprits extrêmement différents. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce feu paraît de même nature. Et puis certains esprits lui donnent une tournure politique et d'autres pas. Stendhal a voulu le lui donner et en fait a cessé de le lui donner et s'est rapatrié sur l'idée de bonheur personnel. Parce qu'au fond, lui voulait se venger de son enfance. La chaudière du feu de la liberté s'alimentait dans le bois de... dans cette espèce de bois particulier du ressentiment. Chateaubriand, en fait, la chaudière ronfle de la même manière, mais le bois qu'il utilise et qu'il jette dedans, c'est la nostalgie. La nostalgie de son passé familial, la nostalgie de l'ancien temps, la nostalgie de l'ancien régime. Et Chateaubriand arrive, lui, à lui donner, à donner à cette idée de liberté une coloration politique. D'ailleurs, assez paradoxale, parce qu'en fait, il réclame la liberté contre le roi lui-même au nom de l'ultraïsme, donc c'est un peu spécial. Oui. Mais en fait, il lui donne une coloration politique. Et puis, les surréalistes ont donné né à cette idée de liberté, l'idée, une idée encore plus moderne, quoi, encore plus extraordinaire, assez apollinarienne, d'une sorte d'émancipation totale de l'homme, quoi, sous tous ses aspects, quelque chose d'une sorte de mystique sans Dieu, quoi, d'une espèce de rédemption générale que l'homme pourrait accomplir par ses propres forces. Et ça rend ces auteurs et ces mouvements, pour moi, incomparablement dynamisants. Et par rapport à ça, c'est naïf sans doute de ma part, mais à chaque fois que je vois un ministre de l'Intérieur qui veut, un ministre de l'Intérieur, un CSA, trois préfets ou quatre juges qui veulent empêcher l'expression d'une opinion, qui la juge exagérément dangereuse, exagérément condamnable, moralement blâmable, comme les juges le font tout le temps, puisque désormais ils confondent en permanence la morale et le droit. À chaque fois, j'ai l'impression, si je puis dire, que c'est André Breton qu'on assassine.
C'est ça.
C'est un peu excessif, sans doute, parce que bon, mais on ne peut pas faire le détail. C'est-à-dire que si on aime la liberté, on ne peut pas dire mais machin qui écrit des trucs lamentables dans les journaux, c'est tout de même pas André Breton. Il y a plusieurs réponses à ça. C'est quand savez-vous? Et si on veut éviter d'assassiner André Breton, il faut aussi éviter de fourrer les médiocres au ballon.
Bon, et puis vous êtes avocat aussi, François Sureau. Ça veut dire que vous préférez toujours un désordre à une injustice.
Oui, ça veut dire, au fond, je préfère un désordre à une injustice. Et en plus, je trouve cette position plus sage parce que je trouve que l'injustice ne fait que préparer de plus grands désordres. C'est après tout toute la profondeur de la pensée politique de Pascal qui a été magnifiquement analysée par un homme que j'aimais beaucoup, qui était Gérard Lebrun, l'auteur de Patience du concept. C'est, si vous voulez, de même qu'on ne peut pas avoir à choisir entre la liberté et la sécurité, car il n'y a pas de sécurité profonde, parce qu'il n'y a pas d'ordre légitime sans liberté, de même on ne peut pas choisir entre le désordre et l'injustice, dans la mesure où en réalité l'injustice prépare toujours de plus grands désordres.
Vous disiez de Pascal, François Assureau, dans un entretien, c'était au JDD, propos recueilli par Marie-Laure Delorme, que Pascal est à la fois raisonnablement conservateur et totalement subversif, et c'est pour ça que c'est aussi un des hommes de votre vie.
Oui, il est totalement subversif parce que il mesure toute institution à ses effets et non pas au discours qu'elle tient sur elle-même. Sartre a raison de dire que la caractéristique du monde moderne, c'est qu'il fait sans cesse sa propre propagande. Et nous vivons dans un temps qui fait sans cesse sa propre propagande, fût-ce d'ailleurs pour des raisons que j'approuve pour certaines d'entre elles, enfin sur le plan moral ou même politique. Mais ce monde fait sans cesse sa propre propagande. Et les institutions font leur propagande. Rien ne me fascine autant que de voir, mais c'est pour moi des clins d'œil pascaliens, si vous voulez, vous sortez d'ici de la maison de la radio, et puis vous avez la mairie de Paris qui dit, ou je sais pas quoi, ou le syndicat des eaux, ici, nous réparons les canalisations pour votre bien-être. Mais c'est orwellien. Ici, cette espèce de cette propagande est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes surplombés par une espèce d'entité invisible qui se soucie de notre bien-être. C'est tout à fait affolant. Ce que j'aime chez Pascal, c'est qu'il n'a absolument aucune illusion, c'est toute l'idée de la distinction des grandeurs d'établissement et des autres, il n'a aucune illusion sur la valeur ontologique ni des institutions ni des gens qui les occupent. Il se soucie simplement de savoir si elles assurent un minimum de paix civile et il pense à juste titre que cette paix civile cesse d'être assurée, non pas en fonction des idées transcendantes que les institutions respecteraient ou pas, mais dans les cas où l'injustice visible des sociétés devient trop évidente, auquel cas l'assentiment public aux institutions disparaît. Je trouve qu'on devrait sans cesse se souvenir de ça dans un monde qui est tenté en permanence de fétichiser les institutions qu'il se donne.
Et vous qui aimez fuir malicieusement les assignations littéraires et politiques, François Sureau, avec Pascal, effectivement, vous nous faites entendre qu'il y a bien sûr le feu de la liberté grande de Julien Gracq, mais il y a aussi le feu de la sainteté. Vous anime, vous avez quand même écrit sur Charles de Foucault, sur la mort de Charles Foucault, puis vous avez écrit cet étrange et beau livre Inigo sur Ignace de Loyola.
Oui, ah, vous connaissez la phrase de Tertullien, quoi. J'ai vu à quoi croyaient les hommes qui ne croyaient pas en Dieu. C'est une phrase très très étonnante. C'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine manière, il y a dans les destinées, dans les grandes destinées spirituelles, dans celles qui appellent à la conversion, Foucault ou Loyola, alors il y a deux cas de figure. Par exemple, pour nos auditeurs, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors, ceux qui croient, ils trouveront ceux qui y croient d'habitude. Mais même pour ceux qui n'y croient pas, ce sont des destinées fascinantes parce que, comme par un effet de contraste, Elles nous font mesurer le degré d'idolâtrie qui est le nôtre lorsque nous fétichisons précisément des institutions publiques, une société politique, et ainsi de suite. Et je trouve qu'elles, ces figures agissent comme une sorte de contrepoids, et de, à condition de les prendre pour ce qu'elles sont. Elles agissent comme une sorte de contrepoids utile, elles nous permettent de décrypter qu'après tout, il y a des hommes qui, au fond, d'André Breton d'une part, à Loyola ou à Bernanos, que pourtant je n'aime pas énormément sur le plan spirituel. Il y a des hommes qui ont pensé que, au fond, la destinée de l'homme était totalement irréductible. J'aime cette idée que la destinée de l'homme est totalement irréductible.
Et ça a à voir aussi avec votre usage de la littérature, François Sureau, parce que peut-être que ce qui est le plus étonnant dans votre dernier livre, Sans la liberté et l'écho qu'il reçoit, c'est ce qu'on sent bien être cet écho entre, disons, une exigence morale et politique et un style implacable. C'est celui aussi que vous utilisiez dans ce très beau livre, Le chemin des morts, qui m'amène aussi à réfléchir à la fin sur la génération. C'est un jeune homme qui rédige un arrêt qu'il va regretter. Je me suis demandé depuis presque chaque jour si j'aurais pu rédiger autre chose que ce que j'avais écrit. Écrivez-vous. Enfin, en tout cas, le narrateur. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans ce livre, Le chemin des morts, se dit quelque chose de l'usage de la langue, puisque à un autre moment du livre, vous dites que ce jeune homme se faisait du langage l'idée que c'était un instrument calculé pour mettre le plus de distance possible entre le juge et le tragique de l'existence.
Ça, c'est une caractéristique du langage du droit.
C'est ça.
Le langage du droit est un langage qui consiste en réalité à tenir à distance et le réel et au fond également l'exigence morale individuelle. Et je pense que les années passant, j'ai été de plus en plus sensible à ce que l'écriture littéraire, l'usage du style, pouvait entretenir de tensions morales à l'intérieur de la personne. Je crois que la phrase de Gide, selon laquelle on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, nous a fait énormément de mal. Je branche plutôt du côté de Stevenson,
oui.
Qui pensait que, en réalité, il n'y avait pas de grande littérature qui ne soit pas tenue par une très très forte exigence morale.
Stevenson, Kipling, vous dites d'ailleurs que voilà, vous aimez exactement. La littérature de petits garçons.
J'aime la littérature de petits garçons. Exigence morale ne veut pas dire la comtesse de Ségur. Enfin, c'est pas le bien, le mal, les tartines et les obsessions nobiliaires. L'exigence morale, c'est une conscience de la partie extrêmement sérieuse et dramatique qui se joue. Ça, c'était d'ailleurs la pensée profonde d'Ignace, qui est assez bouleversante quand on la prend pour ce qu'elle est. C'est-à-dire la conscience qu'il existe une sorte de lien mystérieux entre la partie dramatique qui se joue dans l'homme qui veut rester en permanence à la hauteur de lui-même et la partie qui se joue dans la société politique ou même dans le monde naturel. Et que tout ceci était lié par des liens extrêmement étranges où au fond la dignité, la beauté, le style, l'esthétique, presque en termes nietzschéens, du comportement d'un homme avait un effet mystérieux sur l'ordre du monde qui l'entoure. Et je pense que de cela, en fait, l'amour de la littérature chez tout le monde, chez les gens qui la font, comme chez les gens qui la lisent, l'amour de la littérature porte témoignage.
Donc au total, François Sureau, nous arrivons au terme de cette émission. Si je vous comprends bien, vous avez envie de faire entendre le langage du droit, tout simplement. C'est-à-dire
oui.
Le faire entendre comme principe et comme littérature.
J'ai envie de le faire entendre comme principe et comme littérature, et j'aimerais surtout, Patrick Boucheron, vous voyez, j'aimerais surtout montrer, en fait, ce qu'il y a, je vais pas dire le droit à petite chose, à la surface du web, mais ce qu'il y a derrière, et qui est commun chez nous qui avons pris l'amour de la liberté, je ne sais pas à quel moment exactement dans l'histoire, mais qui est quelque chose qu'il y a de commun chez nous entre ce qu'il y a de meilleur dans le langage du droit, dans le langage politique, dans le langage constitutionnel, dans le langage de la justice sociale, dans le langage de la poésie, dans le langage de la littérature, et que tout ceci, à la fin, est une conception absolument indécidable et assez merveilleuse de l'homme, dont je ne veux tout simplement pas qu'elle disparaisse.
Merci François Sureau.
Merci à vous, Patrick Boucheron.
Matière à penser, François Sureau, Olivier Dupré, Justine Wild, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, j'aurai le plaisir de recevoir Mathieu Pot de Bonneville. Bonne soirée.